Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Elle était initialement prévue ce vendredi. L'élection présidentielle n'aura pas lieu en Libye. L'autorité électorale propose de reporter d'un mois cette échéance. Nous y reviendrons avec Kader Abderrahim, directeur de recherche à l'Institut de prospective et de sécurité en Europe, maître de conférence à Sciences Po Paris. Un tribunal tunisien a condamné l'ancien président tunisien Moncef Marzouki à 4 ans de prison, condamnation par contumace pour atteinte à la sécurité extérieure de l'État. Un arrêté ministériel publié au journal officiel ouvre les archives judiciaires françaises en relation avec la guerre d'Algérie, une ouverture avec 15 ans d'avance sur le calendrier légal. La fête de Noël samedi, gros plan dans votre journal sur une messe célébrée ce vendredi sous le chapiteau du Cirque Grus à Paris et présidée par le représentant du pape en France. Nous écouterons Alain Pignel, membre de l'aumônerie des cirques. La situation épidémique critique en France, Emmanuel Macron appelle les Français à prendre soin les uns des autres, notamment par des tests ou autotests avant de retrouver leurs proches pour les fêtes de fin d'année. Les autorités libyennes ont donc confirmé que l'élection présidentielle prévue ce vendredi n'aura pas lieu. L'autorité électorale propose de reporter d'un mois cette échéance. Un scrutin crucial dans le processus de transition censé sortir le pays du chaos post-Kadhafi. Un pays paralysé par les tensions entre camps rivaux, incapable de s'entendre sur une loi électorale. Entretien avec Kader Abderrahim, directeur de recherche à l'Institut de prospective et de sécurité en Europe, maître de conférence à Sciences Po Paris. Kader Abderrahim.
On ne peut pas organiser des élections, une consultation électorale dans un contexte où un pays n'a pas recouvré sa souveraineté, ce qui est le cas de la Libye, un pays dans lequel se trouvent aujourd'hui encore 20 000 combattants étrangers, d'où qu'ils viennent, peu importe, que ce soit les miliciens de Wagner russes, que ce soit des soldats turcs, que ce soit des mercenaires soudanais ou syriens. Cela fait 20 000 combattants en armes, selon le chiffre même des Nations Unies. Et par conséquent, comment imaginer organiser un scrutin dans des conditions à peu près acceptables, dans la mesure où il est difficile d'imaginer qu'on fasse des meetings, qu'il y ait des débats contradictoires entre les candidats pour permettre aux citoyens de se déterminer et de choisir. Donc, ça me fait penser surtout à cette histoire de l'arroseur arrosé. France, Grande-Bretagne et États-Unis portent la responsabilité d'avoir déclenché le conflit en 2011 sur la Libye. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes, ajoutés aux Nations Unies, qui tentent d'imposer à tout prix un rendez-vous électoral qui n'a aucun sens et qui surtout n'a pas de réalité, parce que sur le terrain, les Libyens vivent dans une peur quasi quotidienne, dans un chaos où les miliciens ont mis le pays en coupe réglée avec des véritables mafias qui se sont organisées pour préserver leurs intérêts, notamment sur la traite de migrants, sur les contrebandes en tout genre, quelles qu'elles soient. Et donc, le pays ne peut pas aujourd'hui organiser une consultation électorale, une élection présidentielle dans un tel contexte. Ça paraît totalement aléatoire. De même que si l'on n'obtient pas avant l'élection prévue pour le mois de janvier, puisque ça vient d'être repoussé et annoncé par la Commission électorale nationale, si on n'obtient pas le retrait de tous ces combattants étrangers que j'ai nommés il y a un instant, l'élection me paraît elle aussi hautement improbable pour le 24 janvier.
C'est aussi un préalable pour les élections législatives qui sont censées se tenir le même jour que la présidentielle.
Oui, absolument. Je n'y crois pas plus aujourd'hui que je n'y croyais hier. Et je pense que ce n'est pas le mois qui vient qui permettra de régler le problème, sauf si il y a de véritables négociations, discussions qui sont engagées avec la Russie et la Turquie et qu'il y ait des pressions extrêmement importante, forte, pour permettre la tenue du scrutin. Mais en 30 jours, cela paraît difficilement tenable.
La Libye qui reste divisée entre l'Est et l'Ouest libyen, est-ce que vous pouvez nous faire part des forces en présence et nous rappeler qui dirige quelle partie du pays ?
La Cyrénaïque, à l'Est du pays, est aujourd'hui complètement contrôlée comme environ à peu près un quart du territoire libyen par le maréchal Haftar, avec son propre gouvernement et son parlement qui siègent à Tobrouk. Et de l'autre côté, depuis la fin de la guerre, à Tripoli, en Tripolitaine donc, il y a un gouvernement tricéphale, avec un président par intérim et deux premiers ministres qui se partagent un peu les rôles, plutôt sous la férule de la Turquie. La Turquie qui est intervenue il y a maintenant 2 ans en Libye, et ce qui a permis à M. Fayez Sarraj, qui était le président lui aussi par intérim d'un gouvernement provisoire, de rétablir l'équilibre, le rapport des forces plutôt en sa faveur. Donc il y a au moins un pays qui est divisé au moins en 2 parties. On peut ajouter à cela les Berbères du Fezzan, du sud, sud-ouest notamment de la Libye, qui sont aujourd'hui assez favorables, à peu près, même s'il n'y a pas de consultation électorale, donc on n'a pas pu faire une mesure scientifique, assez favorable à Saif al-Islam, puisque c'est dans le sud-ouest de la Libye que Saif al-Islam avait déposé son dossier de candidature pour cette élection présidentielle qui aurait dû se tenir le 24 décembre. Donc voilà un peu la situation actuelle sur le terrain. Un pays coupé au moins en 2, entre Cyrénaïque et Tripolitaine, et puis l'intervention d'au moins 10 à 12 pays étrangers, avec 2 acteurs principaux qui sont aujourd'hui la Russie et la Turquie, qui jouent un rôle, je dirais, de pivot, un rôle important pour maintenir, pour défendre leur intérêts respectifs.
Et les aspirations de la société libyenne, elles sont principalement d'ordre social et économique aujourd'hui ?
Oui, et puis aussi, il ne faut pas l'oublier, même si les choses se sont considérablement améliorées, aussi sécuritaires, bien sûr. Mais c'est vrai que si on se souvient de ce qui s'est passé l'an dernier pendant le Ramadan, ça a été quand même un Ramadan très compliqué. Un pays qui est le premier producteur de pétrole du continent africain, qui vit en permanence sous la menace de coupures d'eau, d'électricité. Et pendant le Ramadan, c'est quand même un pays qui est aux 3/4 désertique et dans lequel il fait extrêmement chaud. Ça a été très difficile et voire douloureux. Donc les Libyens ne veulent pas revivre cette situation pour le Ramadan qui aura lieu au début du mois de mai. Donc on n'arrive pas à mettre en place un processus de négociation réel qui tient compte des réalités sur le terrain et des rapports de force. Et tant qu'on sera dans cette espèce de rêve ou de fantasme sur la réalité, ou une réalité qui serait fantasmée, si je puis dire, alors on n'arrivera pas à stabiliser ce pays qui lui-même, compte tenu de son instabilité chronique, a déstabilisé l'ensemble du Maghreb et de la Méditerranée occidentale. Donc, cette situation est devenue vraiment un problème, y compris pour les pays européens qui voient que le conflit s'étend au-delà de la Libye, notamment dans tout le Sahel.
Kader Abderrahim, directeur de recherche à l'Institut de prospective et de sécurité en Europe, maître de conférence à Sciences Po Paris. Un tribunal tunisien a condamné l'ancien président tunisien Monsef Marzouki à 4 ans de prison, condamnation par contumace pour atteinte à la sécurité extérieure de l'État. Monsef Marzouki, qui réside en France, avait appelé la France en octobre dernier à cesser de soutenir le régime de Kais Saied. Un juge tunisien avait émis début novembre un mandat d'amener international contre Monsef Marzouki 2 semaines après une demande du président Saied à la justice tunisienne d'ouvrir une enquête sur les déclarations de l'ancien président. C'est désormais effectif, la France a ouvert ce jeudi ses archives relatives aux affaires judiciaires et aux enquêtes de police dans l'Algérie en guerre contre la colonisation. L'arrêté ministériel est publié au journal officiel. Ces archives sont désormais accessibles sans restriction en vertu d'une procédure dite de dérogation générale. La ministre de la Culture en charge du dossier des archives nationales avait annoncé ce geste le 10 décembre dernier. Cela s'inscrit dans la démarche mémorielle d'Emmanuel Macron. Ce 24 décembre, le cirque Grus respectera une tradition qui remonte à 42 ans. Une messe de Noël sera célébrée sous le chapiteau à l'issue du spectacle. Cette messe sera célébrée cette année par Mgr Celestino Migliore, le nonce apostolique, le représentant du pape en France. Alain Piniel, membre de l'aumônerie des cirques et ami de longue date de la famille Grus.
Cette messe de minuit du cirque Grus, non pas au Cirque Grus, mais du Cirque Grus, existe depuis maintenant 42 ans. En 1979, il n'y avait pas beaucoup de messes de Noël le soir, elles étaient dites très tôt. Et Alexis Grus et sa famille, quand ils sortaient de piste, étaient privés de messe, parce qu'il était 11h du soir. Donc, à l'époque, ils m'ont demandé de trouver un prêtre pour dire la messe pour leur famille. Et petit à petit, au fil des ans, cette messe, où au départ il y avait 45 personnes, est devenue la messe la plus importante en termes de la plus importante en termes de nombre de fidèles, puisqu'elle réunit quasiment 3000 personnes chaque année maintenant depuis une quinzaine d'années.
Alors où se déroule-t-elle? À Paris?
Oui, la messe de minuit a toujours lieu sous le chapiteau de la compagnie Alexis Grus, qui depuis des années se trouve porte de Passy, à l'orée du bois de Boulogne. C'est un très grand chapiteau et elle a lieu à l'issue du spectacle. Donc la piste qui le soir de Noël accueille les numéros des artistes se transforme en quelques minutes en cathédrale et dans le cœur d'une église et la majorité des spectateurs restent pour assister à la messe. Et puis il y a des gens qui viennent spécialement pour cette célébration.
Alors la majorité des spectateurs restent pour la messe. On imagine que le public est très divers, tout le monde n'est pas chrétien, mais il y a une communion à ce moment-là de tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas chrétiens.
Exactement. Et non seulement la diversité des, je dirais, des croyants ou des non-croyants d'ailleurs est remarquable, mais je dirais aussi que ce sont des gens, c'est un peu les mages et les bergers réunis avant l'heure, puisque ce sont des gens qui viennent des quartiers résidentiels comme de banlieue, voire même de province, donc tout le monde est mélangé. Et ça donne une assemblée très diverse et une atmosphère particulière, très recueillie.
On imagine que c'est effectivement une soirée très particulière, puisque on voit des clowns, on voit des acrobates, et puis ensuite, le même lieu devient un espace sacré.
Oui, tout à fait. Donc la piste est aménagée, il y a un autel, il y a une croix qui est dressée, il y a un olivier qui symbolise la paix, et il n'y a pas de crèche vivante. Par contre, au pied de l'olivier, il y a une botte de foin, et sur cette botte de foin, venue des écuries, eh bien, on dépose le livre de l'Évangile, et c'est la crèche de Noël qui est symbolisée ainsi. Tous les ans, cette messe est dite pour la quête qui est faite et remise à une œuvre, et cette année, cette messe sera dite pour en lien avec le Liban, et nous aurons la joie d'accueillir Fouad Hassoun, qui a une association qui s'appelle l'association Phoenix, qui distribue des repas à Beyrouth à des gens âgés et qui sont en grande détresse. Et c'est à cette association que sera destinée l'intégralité de la quête.
Et on imagine que tous les chœurs seront avec les Libanais ce soir de Noël, puisque le Liban a particulièrement souffert cette année.
Absolument. Alors vous dites tous les chœurs, on peut rajouter tous les chœurs avec un H également, puisque nous aurons une centaine de choristes, nous aurons une chorale de petits chanteurs qui seront là, et puis que la cérémonie aura un lustre particulier, puisqu'elle sera présidée par le nonce apostolique en France, qui est quand même le représentant du pape, et donc Monseigneur Milioré, qui est l'archevêque à la fois ambassadeur du pape en France et à la fois représentant du pape auprès de l'Église de France, c'est lui qui célébrera la messe de minuit.
Il est important aussi que le spectacle comme le Cirque Grus continue en cette période de crise sanitaire. J'imagine que ça a été très difficile aussi pour les artistes en 2021.
Ça a été très compliqué dès 2020, puisque les spectacles ont été annulés. Et pourtant, l'année dernière, à Noël, sans qu'il y ait de spectacle, on a tenu à célébrer la messe sous le chapiteau du cirque pour ne pas interrompre cette tradition qui maintenant remonte à il y a 42 ans. Et là, ce sera cette année la 42e messe de minuit. Donc malgré les difficultés, malgré la lassitude que nous connaissons tous, eh bien il y a ce désir que la vie continue et de fêter malgré tout Noël dans la joie.
Et tout le monde est le bienvenu?
Tout le monde est le bienvenu. Donc les gens qui veulent absolument venir au spectacle prennent leur place, mais les gens qui veulent ne venir qu'à la messe, et c'est possible, arrivent à partir de 23h, et l'entrée est libre et gratuite à cette messe, qui est précédée d'ailleurs d'une petite veillée avec du chant de Noël et quelques textes de Noël.
On peut rappeler le métro ?
C'est le métro Ranelagh, qui se trouve à 8 minutes à pied de l'endroit où se dresse le cirque, Porte de Passy, Auray du Bois de Boulogne. Le chapiteau est très visible, c'est un chapiteau de 3000 places, c'est un petit village.
Alain Pignel, membre de l'aumônerie des cirques et ami de longue date de la famille Grusse, il répondait à Loïc Barrière. Une situation épidémique critique. En France, le ministre de la Santé annonce qu'il faut s'attendre à au moins 100 000 contaminations au Covid-19 chaque jour d'ici la fin du mois. En cause, la propagation à vitesse grand V du variant Omicron, plus contagieux que le Delta, encore en circulation. Emmanuel Macron a de nouveau appelé les Français à prendre soin les uns des autres, notamment par des tests ou autotests avant de retrouver leurs proches pour les fêtes de fin d'année. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient, un hommage à 19h et 23h, la rediffusion d'une émission plurielle avec le pédagogue Gabriel Cohn-Bendit, décédé vendredi dernier à l'âge de 85 ans. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.